Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, notre invité est Marc Giraud. C'est un écrivain qui est auteur d'une quarantaine de livres sur la nature et la plupart sont édités chez Delachaux-Nestlé. C'est un chroniqueur radio, télé, animalier, connu pour ses histoires extraordinaires sur les animaux sauvages ou domestiques d'ailleurs. Alors, il aime une phrase, l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire. Bonjour Marc.
Bonjour Dominique, bonjour à tous et à toutes.
Alors, on va tenter de garder un peu cette phrase en mémoire tout au long de notre entretien. Alors d'abord, vous êtes notre troisième invité notre série sur les envahissantes. On a travaillé sur la flore avec les conservatoires nationaux de botanique. Bon, ce qui nous a permis un peu de comprendre ce qui était les notions d'endogène, d'exotique, etc. Et puis de suivre un petit peu aussi le débat qui avait eu lieu autour de envahissantes invasives. On y retournera peut-être avec vous, mais en tout cas, on en a déjà un petit peu parlé. Puis ensuite, on a eu Gilles Clément, qui bien sûr est intervenu selon son problème et selon la manière dont il imagine les choses. C'est sur l'éloge des vagabondes, donc un peu en contrepoint de l'émission précédente, et en nous montrant en quoi finalement la nature aimait bouger. Et puis voilà, vous aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu de la faune.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Gilles Clément, la nature bouge, ça c'est très 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 important, le mouvement, rien n'est fixe, parce qu'on a souvent peur des espèces nouvelles, et en fait à la longue on s'aperçoit que la nature très résiliente a une grande capacité de résistance.
Alors, on
est d'accord.
Oui, je vois. On va reprendre notre voyage donc... Chez les espèces envahissantes, il faut reconnaître qu'il y en a qui sont problématiques quand même aujourd'hui.
Alors oui, bien sûr, notamment dans les îles, parce que les îles, c'est très très restreint au niveau superficie. Donc quand un animal un petit peu nouveau et agressif s'attaque à des animaux qui ne sont pas du tout adaptés pour ça, ils n'ont pas le temps de réagir. Là, la plasticité, la sélection naturelle, tout ça, ça n'a pas le temps de jouer. Donc c'est vrai que des rats ou des chats dans une toute petite île avec des oiseaux qui ne savent pas voler, là, c'est pas bon. Ça, c'est sûr. Maintenant, si on prend un peu de recul avec des animaux sur des grandes surfaces, face à des animaux ou enfin des espèces qui ont le temps de réagir, là, ça se passe pas forcément si mal qu'on peut le craindre, en tout cas.
Alors, vous avez, on va alors laisser les îles, puisque on a eu la chance, la chance, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, de travailler un petit peu sur effectivement cette question, notamment à la Guadeloupe, puisque nous avions travaillé sur un magazine Gaïa, un documentaire sur la manière dont les îles effectivement se peuplaient en faune, et on voyait souvent que c'était parce qu'on y rajoutait une espèce pour combattre une autre.
Ah oui, bah, à l'échelle d'une île continent comme l'Australie, il y a eu quelques catastrophes. Avec on a introduit des lapins qui comme chacun sait, se reproduit beaucoup, donc on a mis des renards contre les lapins, mais les renards ont mangé ce qu'ils voulaient. Et il y a des marsupiaux qui courent moins vite que les lapins. Les chats aussi posent des problèmes. Enfin, c'est vrai qu'une espèce nouvelle, elle est adaptée à son milieu à elle, et ses victimes, entre guillemets, ses proies sont adaptées à elle, mais pas dans un écosystème nouveau. Mais ça, ça a toujours existé. Hein. Aujourd'hui, c'est dû à l'humain, mais à l'échelle géologique, quand l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se sont rejointes, ça a été un bouleversement biologique cataclysmique, là, parce qu'il y avait des tas d'espèces, des genres entiers d'animaux qui ont disparu. Et après, un nouvel équilibre s'est recréé. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques dégâts.
Alors, donnez-nous un exemple. Quelle espèce d'animal disparaissait au moment de cette jonction?
Alors, il y a ce qu'on appelait les édentés, les paresseux. Il y a des animaux comme ça qui n'étaient pas très des animaux pas très rapides qui se sont fait avoir. Il y a aussi des parasites, des maladies dont on n'a pas de traces d'ailleurs forcément, mais il y a des animaux entiers qui ont disparu. Et quand les humains sont arrivés, ils sont souvent là. Les premiers humains en Amérique du Nord, là ça a été par l'autre côté, il y avait une faune, une mégafaune extraordinaire. Il y avait des guépards, il y avait des castors géants, il y avait encore des mammouths, des éléphants. Tout ça a été éradiqué par les premiers humains.
Et les premiers humains qui étaient donc des chasseurs.
Ah ben oui, forcément aussi. Et puis bien sûr. Et ça, c'est dans toutes les îles, c'est partout. Alors là, on ne parle pas d'espèces nouvelles, on parle d'espèces qui disparaissent à cause d'une invasive qui est l'humain. Et c'est vrai qu'il est assez malin pour aller partout. Donc il a fait quand même pas mal de dégâts lui-même.
Alors aujourd'hui, on a quand même une série d'espèces. Bon, alors on a donc ce débat sur les envahissantes. On va y revenir ensemble à la fin de cette émission, très certainement. C'est-à-dire que vous nous expliquerez comment la nature, quand elle peut, quand elle a le temps, quand elle a l'espace, elle peut reprendre la main. Mais essayons de voir aujourd'hui, dans ce débat qui est lancé par l'UICN, donc l'Union de conservation de la nature, qui a établi une liste rouge des espèces menacées de disparition. Il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'espèces qui posent problème et qui sont vraiment menacées.
Oui. Et ça, c'est un cas de conscience pour nous autres naturalistes, biologistes ou chercheurs. J'ai des collègues au muséum... François Sercollet, par exemple, sur les amphibiens, qui dit « Mais ma vocation, c'est d'étudier ces animaux, c'est pas de les flinguer. » Donc, on parle de la grenouille taureau, par exemple, qui est capable de manger quasiment toutes les autres grenouilles, ou du xénoplis, qui est aussi une espèce d'amphibien, mais très, très, très discret, qui s'est échappé qu'on a échappé d'un laboratoire dans les Deux-Sèvres et qui fait 1 km par jour et qui mange à peu près tout ce qui bouge dans les mares. Effectivement, ça pose quand même des problèmes. Mais à court terme, à long terme, je ne sais pas.
À long terme, vous ne savez pas. Mais pour l'instant, quand même, donc ce sont des espèces contre lesquelles on lutte. Et on lutte comment ?
Alors, la lutte, c'est toujours la réponse qu'on a. Dès qu'il y a un problème. Et je ne sais pas si c'est la meilleure réponse, quoi. On est gêné, on flingue. Et on ne réfléchit pas. C'est un peu un réflexe de chasseur. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un tout petit peu à laisser faire la nature, justement lui faire confiance? Parce qu'on a vu des espèces invasives comme la tortue de Floride, moi j'ai milité vraiment contre le commerce des tortues de Floride. On disait ça va éradiquer notre tortue indigène qui est la cistude. Et aujourd'hui, il y a les deux. On se rappelle de la fameuse algue tueuse, la colarpa dans la Méditerranée, qui était censée tout stériliser, elle est toujours là, et le reste est toujours là aussi. Le frelon à pattes jaunes, qu'on appelle le frelon asiatique, lui, c'est vrai que quand il est arrivé, les abeilles mellifères étaient ce qu'on appelle naïves, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas se défendre contre lui. Mais là, on s'aperçoit, et ça a été filmé, que les abeilles commencent à se défendre contre les frelons.
Et alors, qu'est-ce qu'elles font ?
Alors, elles se mettent ensemble, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas isolées, un petit peu comme le zèbre isolé qui se fait prendre par les lionnes. Là, elles se mettent ensemble et elles se défendent. Donc, elles le piquent, elles l'attaquent, elles ne sont plus victimes, elles deviennent bourreaux. Donc, les frelons à pattes jaunes, peut-être qu'au bout d'un moment, il va s'intégrer à notre entomofaune, parce que de toute façon, maintenant, il est là. Mais peut-être que ça se passera beaucoup mieux qu'on l'a craint. Et pendant des années, on a piégé les insectes, on les a empoisonnés, c'est-à-dire non seulement les frelons asiatiques, tous les autres, y compris des abeilles ou des insectes très utiles.
Oui, parce que tout le monde faisait partie, tout le monde était éradiqué en même temps, quoi.
Ben, c'est ça, quand on fait un piège, c'est pas sélectif. Donc on mettait des liquides, soi-disant plus ou moins sélectifs, mais qui ne l'étaient pas, ou on flinguait aussi des insectes très utiles. Donc cette espèce de réflexe de dire « allez, on va éliminer ce qui nous gêne », c'est peut-être un peu primaire finalement.
Alors, mais on comprend que économiquement, en tout cas, l'homme réagisse. La plupart du temps, c'est pour cette raison d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas justement économiquement si c'est si intéressant que ça. Si on reste sur le frelon, c'est vrai que les apiculteurs qui ont déjà bien des problèmes, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais en achetant des pièges, en empoisonnant tous les insectes autour d'eux, donc en empêchant la fertilisation des plantes qui sont elles-mêmes utiles à leurs abeilles, je ne sais pas si c'était la bonne solution. Là, en ce moment, la nature est en train de trouver une solution écologique, par nature, hein, qui va aider les apiculteurs et qui est bien plus efficace à long terme que les pièges.
Et c'est quoi ?
Nous, on n'aura plus rien à faire.
Et c'est quoi ?
Eh bien, la défense naturelle des abeilles qui commence à réagir.
D'accord. Donc, c'est ce que vous racontiez, c'est-à-dire la manière dont elles se groupent entre elles pour attaquer elles-mêmes le frelon.
Alors, pour l'instant, elles font ça. Et en Asie et ailleurs, les abeilles font bien d'autres choses. Elles font des espèces de holla où elles chauffent tellement la ruche autour d'elles que le frelon crame littéralement. Il y a d'autres méthodes qu'elles vont peut-être trouver. Elles vont peut-être en trouver d'autres. Enfin, pour l'instant, elles sont de moins en moins naïves. Elles réagissent parce qu'il y a quand même une espèce d'intelligence de la sélection naturelle. Et le frelon... qui n'est pas si redoutable que ça, d'ailleurs, moi j'en ai souvent observé, un frelon asiatique et un frelon européen, j'ai déjà vu des frelons européens qui attaquaient l'asiatique et qui l'avaient, mais ils sont bien plus forts les européens. Donc des invasives qui sont plus fortes en revanche que les espèces locales, ça c'est pour le vison d'Amérique par exemple, par rapport au vison d'Europe, bon il y en a où le rapport de force est inversé quand même.
Bon, racontez-nous encore une histoire un peu comme celle des abeilles, parce que c'est passionnant. Et alors, on nous dit par exemple aujourd'hui qu'on a on voit arriver la fourmi qui pique, là, je ne sais plus comment on l'appelle, la fourmi électrique.
Oui, d'Argentine.
Oui.
Oui, il y a plusieurs espèces où effectivement elles sont assez redoutables. Il y a la fourmi de feu.
Voilà, la fourmi de feu. Alors, comment est-ce là, on est en train de voir se développer pas mal de mise en garde contre cette fourmi.
Alors, je ne voudrais pas être angélique non plus. Je ne veux pas dire que ça va passer bien à tous les coups. Il y a vraiment des espèces qui sont embêtantes.
Par exemple, le moustique, les moustiques, hein. Pour la dengue, par exemple.
Ben oui. Le moustique, de toute façon, c'est un parasite de l'humain depuis très longtemps. Dans la logique de la nature, les parasites, ils ont un rôle, c'est de gérer les populations en surplus. Et nous, humains qui sommes partout, évidemment, on a quelques soucis à se faire.
Et vous croyez que la nature sait qu'on est en surplus ?
Ben oui, c'est-à-dire que c'est presque mathématique. Un prédateur ou un parasite, il va là où il y a le plus de victimes. Donc là où il y a le plus d'individus, c'est nous. Donc, on est un peu partout. Donc un parasite qui s'adapte à nous, qui nous prend comme victime, il va se régaler sur la planète entière. Donc forcément, c'est un peu son rôle, si je veux parler scientifiquement et froidement, le rôle du parasite, c'est de gérer les populations en surplus.
Mais c'est très intéressant. Et en fait, est-ce qu'on a conscience de ça ? Est-ce qu'on en tient compte ?
Non, on ne tient compte que de nos intérêts. Ça, c'est un peu le problème. On est très anthropocentré, on est très humano-humain. On ne voit que l'intérêt économique, c'est-à-dire soit ça nous rapporte, soit ça nous nuit, et on ne réagit que par rapport à ça. On ne réfléchit pas beaucoup, enfin, en dehors des scientifiques et d'autres gens qui ont un peu plus de recul, mais globalement, on ne pense que par rapport à nos intérêts, à nous.
Alors,
on ne pense pas globalement le monde vivant.
Donc, aujourd'hui, c'est... Et pourtant, quand on regarde un peu la situation, vous avez évoqué tout à l'heure la caulerpa, cette algue qui finalement empêchait les posidonies qui protègent le littoral Languedoc-Roussillon sur lequel nous sommes de se protéger. Elle a disparu. On peut parler de la crépidule en Bretagne, plutôt en Normandie, limite Normandie-Bretagne, qui elle aussi se régule. Alors, nous ici, par exemple, sur la région de Montpellier, on a des problèmes avec le poisson lion en ce moment, et puis avec le crabe bleu. Alors, qui sont des espèces qui nous arrivent d'ailleurs. Le crabe bleu nous est arrivé par des États-Unis, et puis le poisson lion, eh bien, nous arrive de Caraïbes via le canal de Suez. Donc, comment ça va se passer avec ces espèces,
Alors, forcément mal au premier abord, forcément. Parce que il y a un équilibre qui doit se créer quand il y a un rapport de force. C'est comme le frelon. Hein. Au début, le nouveau, s'il est un petit peu plus fort, il s'installe et il casse tout. Mais il y a une réaction. On peut espérer des réactions des autres espèces. Encore une fois, je ne veux pas être angélique. Ça peut mal se passer jusqu'au bout, jusqu'à éradiquer entièrement une espèce. Ce n'est pas impossible non plus. Hein.
On sait par exemple que le poisson lion mange toutes les larves, enfin tout ce qui est inférieur à sa taille. Donc au départ, heureusement qu'en Caraïbes par exemple, on a trouvé la solution puisqu'on le mange. Voilà.
Oui, c'est vrai. Et puis bon, il est très joli. Oui,
c'est dangereux
une des
aussi,
solutions
hein
d'ailleurs. C'est une des solutions, c'est d'exploiter quand on peut. Bon, je crois que la crépidule, on avait essayé d'en faire des recettes, c'était pas terrible. Hein. Mais on peut exploiter aussi, pourquoi pas. Ben, les écrevisses, c'est ça. Et ce qui est très étrange, c'est que des fois, il y a des espèces invasives qui vont nous aider contre d'autres invasives, comme par exemple l'ibis sacré contre l'écrevisse américaine. Parce que les ibis sacrés adorent ces écrevisses et finalement gèrent les populations.
Donc il faut qu'ils en mangent assez, quoi.
Oui, voilà. Il faut. Enfin, tout est une histoire de dosage. Hein. On ne peut pas rêver d'une nature où il y a zéro problème. Ça serait stériliser entièrement tout ce qui n'est pas nous-mêmes, quoi. On ne peut pas rêver de ça non plus. Ça serait angélique. Ça serait utopiste de dire, bah, dès que ça nous gêne, bah, on va l'enlever et on va se reposer sur nos lauriers. C'est pas envisageable parce que de toute façon, on bouge. Il n'y a pas que les avions, il y a les bateaux avec leur ballast, les transports
d'espèces. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le ballast? Expliquez-nous un tout petit peu parce que nos auditeurs
sont pas... Les bateaux prennent de l'eau et en libère pour le niveau d'eau. Enfin, je suis pas un navigateur,
enfin,
mais
bon, il s'équilibre. Voilà.
Donc, ouais. Il déplace des grosses quantités d'eau dans lesquelles il y a des animaux. Sur les coques des bateaux, il y a des crustacés, il y a des animaux qui s'accrochent. Donc, forcément, dans le voyage, on va déplacer des espèces. On en a même déplacé dans l'espace. Hein. Il y a aujourd'hui peut-être des tardigrades qui sont sur la Lune, et il y a peut-être des êtres vivants aujourd'hui sur la Lune. Hein.
On est en train de découvrir d'ailleurs, moi j'ai vu hier une information comme quoi dans l'atmosphère qu'on a ramenée de Mars, on découvre des bactéries.
Oui, bah oui, c'est ça. On est en train de transporter ce qu'il y a de plus résistant, peut résister au vide sidéral. Donc on déplace beaucoup de choses et ça sera toujours le cas.
Donc c'est le transport qui est le principal vecteur de tout ça.
Ah ben c'est les humains de toute façon, ça c'est les activités humaines, parce qu'on va bien plus vite que bien d'autres animaux.
Bien,
ça,
alors, vous avez par rapport à cela une vision, c'est donc, on l'a un peu senti, c'est de laisser la nature se rééquilibrer. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus longuement et puis nous donner quelques exemples justement auxquels vous avez assisté de ce rééquilibrage?
Alors oui, c'est pas une philosophie, mais je m'aperçois que quand on fait pas assez confiance à la nature. La nature a des ressources. Par exemple, on sait que dans un lieu très très protégé, une forêt primaire ou un lieu en libre évolution où on laisse les choses, la forêt a ce qu'on pourrait appeler ses défenses immunitaires, c'est-à-dire qu'elle est bien plus adaptée contre des espèces invasives. Parce qu'il y aura toujours un animal, une plante ou autre qui va pouvoir s'attaquer à l'intrus. Alors qu'un milieu très dégradé, évidemment, il est déjà vulnérable en lui-même, il n'a pas toutes ses défenses, il n'a pas tous ses moyens. Et là, les espèces invasives sont bien plus importantes. D'ailleurs, on voit beaucoup en banlieue les perruches à collier, par exemple, on les voit beaucoup dans les villes et dans les banlieues. On ne les voit pas dans les milieux très sauvages.
Elles sont arrivées chez nous à Montpellier, c'est vrai. On les a maintenant et elles chassent les autres oiseaux.
Alors oui, c'est-à-dire qu'elles prennent les cavités qui peuvent servir aussi aux étourneaux, mais il y a des gens qui ne sont pas contents des étourneaux non plus parce que ça fait du bruit et des fientes. Donc, est-ce que...
Bah, elles aussi, elles font du bruit, hein.
Ah bah oui, elle aussi, oui, oui, oui. Puis ça chante pas très bien, c'est très joli, mais ça chante pas très bien, ça je vous l'accorde. Moi je trouve ça plutôt agréable de les voir passer quand je me balade à Paris ou à Bruxelles, mais bon, ça c'est juste esthétique. Hein. Quand il y en a beaucoup, 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 et que ça fait des dégâts dans un champ, je me mets à la place de l'agriculteur, c'est pas agréable, il faut se défendre. Mais de toute façon, il faut se défendre contre la nature localement. Là où je m'oppose, c'est quand on veut stériliser, quoi, quand on veut tout éradiquer, c'est pas possible.
C'est-à-dire ?
Ben,
Donnez-nous un exemple de bête qu'on essaye justement d'éradiquer de cette manière.
Alors, d'une manière très hypocrite, on veut se la plupart des gens veulent se débarrasser des loups, par exemple. Alors que c'est une chance pour la biodiversité, c'est une chance pour la nature, ça pourrait être une chance pour l'économie, le loup pourrait rapporter des sous. Moi, naturaliste, si je veux voir des loups, je vais en Espagne ou en Italie. Alors qu'on en a chez nous, il y a des gens qui rêveraient, qui mettraient de l'argent pour aller dans les montagnes, les écouter hurler, avoir une chance de les apercevoir. Donc on pourrait agir autrement.
Donc vous nous parlez d'un tourisme de nature là qui rapporterait de l'argent.
Bien sûr, mais les gens ont de plus en plus besoin de nature, puisqu'on en a de moins en moins. Donc je pense que ça pourrait être beaucoup plus fructueux qu'un élevage subventionné. On devrait réfléchir un peu plus à ce genre de choses, mais c'est du long terme, encore une fois, c'est pas du court terme. Et c'est vrai que quand j'ai plein d'amis éleveurs de brebis, quand on protège ces brebis, le loup, c'est pas un copain. On est obligé de travailler bien plus et c'est un problème. Mais j'en connais aussi plein qui sont prêts à accepter le problème pour avoir une nature riche. Il y en a plein qui se disent, mais il a autant sa place que moi sur Terre. Moi je trouve que c'est une philosophie qui est plutôt celle du futur que celle du passé. Hein.
Alors, vous avez par exemple des amours d'animaux qui sont un peu justement mis au banc.
Ben, moi, j'aime les mal-aimés, par définition, c'est vrai. Tous ceux qu'on appelle les nuisibles, même les renards, les putois, enfin tout ça, ce sont des animaux passionnants, qui n'ont pas beaucoup été aimés pendant des années, comme le loup d'ailleurs, mais qui sont des animaux fascinants quand même. Moi, j'aime à peu près tout, sauf ceux qui me gênent. Je suis comme tout le monde, un moustique, je suis capable de tuer un moustique, parce que on est une espèce comme les autres, on a le droit de se protéger. Mais il faut quand même réfléchir à ne pas voir que notre intérêt.
Alors, dans les animaux qui sont un petit peu aujourd'hui pourchassés, lesquels vous préférez ?
Alors, je les aime tellement tous. Peut-être dans les araignées, dans des choses comme ça, ce qui fait peur à tout le monde. Moi, j'aime bien. Alors, je vais prendre un milieu que j'adore, c'est la bouse de vache. Tout ce qui est scatophage du fumier, ce qu'on appelle un peu plus vulgairement mouche à merde, c'est les bousiers et tout ça, c'est des animaux absolument passionnants à observer, qui sont en voie de disparition à cause des vermifuges d'ailleurs. Et on peut passer des heures à regarder ce qui vole autour d'une bouse. Il y a même un scientifique qui a fait une découverte scientifique en regardant les scatophages du fumier. C'est vraiment passionnant. Donc en fait, regarder ce que personne ne regarde, c'est toujours intéressant. Et autour de nous, on a toujours des merveilles autour de nous, même sur un pissenlit, il y a des tas de choses qui se passent.
C'est là qu'on retrouve votre petite phrase « extraordinaire se cache dans l'ordinaire ».
Mais oui, le pissenlit est aussi intéressant que l'orchidée. J'adore les orchidées, hein, mais j'en vois moins souvent, même si j'en ai dans mon jardin, des sauvages. Hein. Et les pissenlits, on peut regarder ça, la manière dont... Alors là, on est dans la botanique, mais la manière dont les pissenlits se font une guerre chimique pour empêcher aux autres plantes de pousser autour d'elles, en balançant de l'éthylène, la manière dont ils se clonent. Même un pissenlit, ça peut être passionnant, puis ça attire des tas de papillons qui sont magnifiques, des migrateurs, des belles dames, etc. On peut passer des heures. Souvent, je fais des sorties de nature avec des enfants, je fais safari sur un mètre carré. On s'assoit, on fait un petit mètre carré comme ça, avec des bouts de ficelle, et on regarde ce qui se passe sur un mètre. Alors, on voit une coccinelle qui va s'envoler, on voit des fourmis, etc. Et après, je leur dis, mais regardez autour de vous, c'est des millions de fois ça. Et là, on s'aperçoit de la richesse qu'on a autour de nous et qu'on ne regarde pas.
Et alors donc, forcément, c'est une découverte de la nature qui est un peu à contrario de ce qu'on nous apprend.
Ben, c'est la nature dans la nature, ça c'est important quand même d'aller voir dans la nature ce qui se passe, de regarder ce qu'on considère comme banal, une simple mouche, c'est une merveille, ça se colle au plafond, hein. Vous en connaissez des animaux qui marchent au plafond, qui a des yeux avec des centaines de facettes, qui goûtent et qui goûtent avec les pattes. Quand une mouche se pose sur vous, sur un gâteau, sur n'importe quoi, elle a des papilles sensitives sur les pattes qui sont les mêmes que nous sur notre langue. Donc c'est une mouche, une simple mouche, c'est fabuleux à regarder, c'est vrai.
Alors Marc, on va être obligé bientôt de se quitter parce que on arrive à la fin de cette émission. Donc est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux titres de livres parce que c'est tellement passionnant, la manière dont vous nous racontez la nature, que j'invite nos auditeurs bien sûr à se pencher aussi un peu sur ce que vous avez écrit. Alors il y en a 40, on va pas les citer, mais
Je suis à mon 46e là, je viens de 46e,
bien. Alors, essayez de nous en donner un ou deux titres.
Alors, j'ai toute une série qui s'appelle « La nature en bord de chemin », en fait. C'est toute la nature banale, justement. Dans chaque titre, il y a 700 photos. Là, je vais sortir la forêt en bord de chemin. Le dernier, c'était la nature au bord de l'eau. Et c'est vraiment toutes les histoires extraordinaires des animaux autour de nous, en photo, avec des super photographes de terrain. Donc, la série bord de chemin, c'est vraiment intéressant. Et le dernier, il s'appelle Bête de sexe. C'est sur la sexualité des humains et des autres animaux, qui est passionnant aussi.
Bête de sexe, alors racontez-nous-en une histoire. Comme ça, on va finir sur un petit clin d'œil.
Bon, alors... Oui, alors je vais vous raconter le zizi à musique, par exemple, de la tipule. C'est une espèce de gros moustique qui pique pas. D'ailleurs, on a découvert chez une espèce de tipule que le mâle avait un zizi à musique qui faisait une espèce de vibration et qu'en fait, ça attirait la femelle parce que ça lui procurait une sorte de plaisir, une sorte de vibromasseur, quoi. Donc, rien que les organes génitaux des animaux, les pénis à double, quadruple, etc., les vagins tarabiscotés, il y a plein de choses, rien que sur les organes qui sont passionnants. Et puis, on parle aussi des mœurs des animaux, évidemment, de l'homosexualité chez les animaux, par exemple, ce qui prouve que ce n'est pas contre nature, et puis des meurtres. J'ai fait des dessins aussi, donc oui, je vous conseille, on s'est bien amusé. J'ai fait ça avec une copine sexologue pour parler des humains, mais on s'est bien amusé à faire celui-là, Bête de sexe. Ouais.
Alors, bordure de chemin, Bête de sexe, et puis vous nous avez raconté les bouses aussi, je crois que je garde un souvenir.
Ah, J'ai fait Safari dans la bouse.
Voilà.
C'est tout un livre là-dessus. Oui, je me suis bien amusé aussi.
Et ça, c'est assez rigolo aussi, donc je conseille aussi. Bon, écoutez, Marc, en tout cas, merci mille fois pour toutes ces histoires. Et je rappelle à nos auditeurs qu'il faut vous lire parce qu'ils apprendront des milliers de choses. Merci à vous.
Voilà, j'essaie que ça ne soit pas scientifique.
C'est scientifique quand même. Non, ça se lit effectivement avec beaucoup de sourires, mais on peut dire que vous êtes sérieux.
Ah oui, tout à fait, c'est ça.
Allez.
C'est ça, sérieux mais drôle.
Au revoir Marc.
Avec plaisir, au revoir, merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.